Aujourd'hui, on entame une plongée absolument fascinante dans l'histoire, l'évolution d'un petit village rural de l'Aveyron nommé Arvieux.
Ouais, un coin vraiment particulier.
C'est ça. Quiconque s'intéresse à la façon dont nos sociétés se sont transformées au fil des siècles va adorer cette exploration. L'idée, c'est de reconstruire la vie, les petites anecdotes croustillantes et la métamorphose complète de cette commune. Dans les notes, on parle d'un village situé entre le Ségala et le Lévézou. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas familières avec la géographie aveyronnaise, à quoi ça correspond exactement ces territoires?
Ben, ce sont deux plateaux aux caractéristiques très très marquées qui encadrent cette région. Le Ségala, historiquement, c'était la terre du seigle, quoi. Une région au sol plutôt acide, assez rude, l'encan considéré comme pauvre, enfin avant l'arrivée des amendements agricoles modernes.
D'accord.
Et le Lévézou, de son côté, c'est un vaste plateau cristallin, très ouvert, battu par les vents, traditionnellement voué à l'élevage. Et en fait, Arvieux se trouve un peu à la charnière de ces deux mondes, ce qui a vraiment forgé le caractère hyper résilient de ses habitants. Et pour comprendre cette évolution, notre analyse d'aujourd'hui, elle repose exclusivement sur un document remarquable, le bulletin du Cartoclub aveyronnais.
Ouais, un bulletin qui offre un prisme très singulier, celui des anciennes cartes postales. Mais avant d'entrer dans les détails de ces images, il faut absolument mentionner les architectes de cette recherche. Toute cette exploration se base sur un article extrêmement fouillé rédigé par Françoise Canac et Thierry Sollier.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, leurs recherches ont été enrichies par les précieux témoignages historiques de Claudine Bru, ainsi que par les récits d'enfance d'Henri Grimal. Ces mémoires sont tirées de son livre « L'envol ».
Et il faut aussi qu'on prenne un moment pour saluer un travail de l'ombre sans lequel cette mémoire collective n'existerait tout simplement pas, Guy Mazard. Il est explicitement nommé dans nos sources comme le rédacteur en chef et le concepteur de la mise en page de ce bulletin. C'est un travail titanesque de compilation, tu vois, d'organisation visuelle et de valorisation de ces petits bouts de carton historiques.
Bon, décortiquons tout ça. Commençons par la première partie de notre exploration, à savoir les racines de la commune, l'exode et la réalité, parfois franchement brutale, de la vie quotidienne d'autrefois. Les chiffres de la population d'Arvieux dessinent une trajectoire assez vertigineuse sur un siècle et demi.
Vertigineuse, c'est le mot.
Comment on interprète cette courbe démographique ?
Les recensements parlent d'eux-mêmes. En 1836, le village compte 1677 habitants. C'est une population énorme pour une commune rurale de ce type. Et ça crée une pression foncière et économique insoutenable. Les terres ne suffisent plus à nourrir tout le monde, quoi. Résultat, à la fin du siècle dernier, donc en 1999 pour être précise, la population était tombée à moins de 1000 habitants. C'est l'illustration classique de l'exode rural. Initialement, beaucoup partaient comme travailleurs saisonniers, tu sais, ils se descendaient vers le Languedoc pour les vendanges.
Ouais.
Mais la pression était telle que certains ont dû envisager des départs définitifs, et pour le coup, beaucoup plus lointains.
Ah oui, et j'ai justement vu une mention très surprenante dans les documents concernant une destination lointaine, parce qu'on imagine toujours le paysan aveyronnais montant à Paris pour ouvrir un café ou livrer du charbon, tu vois le cliché.
C'est ça, le fameux bougnat.
Exactement. Pourtant, en 1881, il est question de départ vers l'Argentine. Comment une telle expédition a-t-elle pu s'organiser depuis un petit village paumé du plateau aveyronnais ?
C'est l'un des épisodes les plus romanesques de cette histoire. Cet exode vers l'Amérique du Sud, ça témoigne d'une misère profonde, certes, mais surtout d'une audace inouïe. Sous l'impulsion d'un certain Clément Cabanette, qui a servi de relais et d'organisateur, en fait, des familles entières d'Arvieux ont pris la décision de traverser l'Atlantique.
C'est fou.
Les archives mentionnent spécifiquement les familles Boris, Cans, Cransac et Verdier. Ces gens ont quitté leurs terres rocailleuses pour aller fonder la colonie de Pigué, dans la Pampa argentine, à des milliers de kilomètres de chez eux.
Faut imaginer le choc culturel et climatique, quoi. Mais pour comprendre cette envie viscérale de partir, de tout quitter, les descriptions de l'auteur Henri Grimal nous donnent une idée très claire de la vie au ras du sol à Arvieux à cette époque. Ses souvenirs d'enfance dépeignent un village qui manquait cruellement des infrastructures de base qu'on tient pour acquises aujourd'hui. Il précise que ni les rues ni les places n'étaient pavées.
Ah, la rudesse du quotidien était totale. Sans pavage et sans aucun système organisé pour l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, le centre du village se transformait régulièrement en un bourbier impraticable.
La gadoue géante, quoi.
C'est ça. Et la promiscuité avec les animaux ajoutait vraiment à cette atmosphère pesante. Grimal souligne que la cohabitation était littérale. On élevait des cochons, des volailles et même parfois des petits bovins directement au rez-de-chaussée des habitations.
Sous le même toit.
Ouais, blottis sous les escaliers.
Ce qui nous amène à la toute première carte postale mise en avant par l'article. C'est une carte bleutée, éditée par Combier-Macon et distribuée par l'éditeur Ravaille qui a circulé en 1906. Le visuel est hyper saisissant. On y observe le centre névralgique du dunage, avec les vitrines des commerces de l'époque. Mais le détail qui attire l'œil, ce sont ces bancs équipés de lourdes boiseries. Les voisins s'y installaient pour papoter, échanger les nouvelles ou peut-être simplement pour observer le photographe installer son imposant matériel, tu vois.
Oui, et d'ailleurs, ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette image capture l'illusion d'un petit monde endormi, alors qu'en réalité, ce centre de village abritait une économie locale hyper structurée qui fonctionnait presque en autarcie.
Ouais.
Le recensement de 1876 vient donner de la profondeur à cette scène figée. On y dénombre une myriade de métiers aujourd'hui disparus. Pour un seul village, on compte 14 cordonniers, 14 tisserands, 4 chiffonniers, 5 forgerons et pas moins de 36 servantes.
36. C'est un véritable écosystème autonome. On apprend aussi que les places du village grouillaient de vie lors des foireaux. Le terme foireau, ça désigne ces marchés spécifiques dédiés à la vente d'animaux. Il y avait des marchés aux bestiaux et des foireaux à volailles qui se tenaient carrément au pied du clocher de l'église.
Oui, au cœur même du village.
Et ce qui frappe ensuite dans cette exploration, c'est l'histoire architecturale d'Arvieux. Le destin des bâtiments en pierre semble avoir été particulièrement tumultueux pour le coup.
Ah oui, le patrimoine bâti a connu des bouleversements constants. L'histoire du vieux château féodal en est le parfait exemple. Il a d'abord été détruit, puis reconstruit aux alentours de 1600.
D'accord.
Et son usage a ensuite radicalement changé en 1855. Il a été transformé en couvent par des religieuses. Et ce couvent a fini par abriter une école privée qui a fonctionné jusqu'en 1989.
Incroyable.
Et à côté de ça, le pouvoir civil a aussi laissé sa marque, avec le château Saint-Louis, qui est une imposante demeure bourgeoise érigée en 1830 par un certain Hippolyte qui a occupé le fauteuil de maire pendant de très longues années.
Et l'église paroissiale cache elle aussi des secrets architecturaux étonnants. Son clocher massif, qui culmine à 22 mètres de hauteur, il n'a pas toujours eu une fonction purement religieuse. Il s'agit en réalité du tout dernier vestige des remparts défensifs construits au XVIIIe siècle.
Exact.
Et juste en dessous du parapet du presbytère, on trouve un aménagement beaucoup plus récent et chargé d'émotions, une curieuse réplique de la grotte de Lourdes. Les notes précisent que ce sont les anciens prisonniers et les soldats de la commune qui l'ont érigé à leur retour pour remercier la Vierge d'avoir survécu à la guerre de 39-45.
Cette superposition des époques et des fonctions illustre vraiment bien comment chaque génération adapte les pierres à ses propres besoins. Et l'invention de la carte postale à la fin du XIXe siècle a permis de documenter ces transitions visuellement avec un niveau de détail inédit pour la vie rurale.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une carte postale éditée par Paul Fauchard de Blois, oblitérée en 1911, qui offre un moment de vie capturé sur le vif.
Celle avec l'hôtel La Paume ?
C'est ça. On y voit la magnifique porte de l'hôtel La Paume. Quelques personnes endimanchées posent pour l'objectif. Mais le photographe, il n'a pas pu contrôler tout l'environnement. Dans le cadre, on aperçoit des tas de bois laissés en vrac, une charrette à l'arrêt, et trônant au beau milieu de la rue principale, une poule. Une poule picorant paisiblement juste entre les pattes d'un cheval stationné. C'est le chaos tranquille et désordonné de la campagne, quoi.
La présence de cette poule et de ces tas de bois en pleine rue en 1911, ça prend une dimension presque ironique quand on lit les arrêtés municipaux mentionnés par les auteurs de l'article.
Ah ouais ?
Ben oui, les archives montrent que la commune essayait désespérément de civiliser ces espaces publics. Le nettoyage officiel des rues n'a été institué qu'en 1907 et à raison de 2 passages par semaine seulement.
Seulement 2. Et la bataille pour la propreté ne s'arrêtait pas là. En 1910, un arrêté municipal interdit formellement aux habitants de faire des tas de fumier directement sur la voie publique. On constate que le progrès avance à un rythme extrêmement lent.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Le pommier téléphone fait son apparition en 1911, qui est une révolution en soi. Mais pour ce qui est de la chaussée, il faudra patienter jusqu'en 1947 pour que la route principale soit enfin goudronnée. Et carrément jusqu'en 1951 pour que l'ensemble des rues du village bénéficie de ce revêtement.
Mais ce rythme lent, presque géologique de la modernisation, il va être brutalement percuté par les grands événements nationaux, en particulier au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'onde de choc du conflit atteint les moindres recoins de la ruralité, créant un besoin de recueillement collectif énorme. Et ça nous conduit à l'épisode passionnant et par moments assez comique du monument aux morts d'Arvieux.
Ah, la saga de ce monument, c'est digne d'un roman. Au début des années 1920, la France entière pleure ses morts et chaque commune, aussi petite soit-elle, souhaite ériger un lieu de mémoire. À Arvieux, la création de ce monument donne lieu à un affrontement d'anthologie entre deux figures locales.
Le fameux duo.
D'un côté, on a un maire pragmatique, très soucieux de préserver les deniers publics, qui aurait largement préféré se contenter d'une simple stèle économique. De l'autre côté, on trouve un curé doté d'une forte personnalité, très obstiné et entreprenant, qui veut un hommage grandiose.
Et ce bras de fer finit par tourner à l'avantage du religieux. Le curé parvient, à force d'insistance, à convaincre la municipalité d'acheter une véritable œuvre d'art auprès du sculpteur Mallet de la Guiole.
D'accord.
La statue choisie représente un poilu, tu sais, ce terme affectueux pour désigner les soldats d'infanterie français de la Grande Guerre, avec un visage grave, se recueillant devant la tombe d'un camarade.
La commande de l'œuvre n'était que la première étape, parce que le véritable clou du spectacle, c'est la cérémonie d'inauguration elle-même. Les notes nous offrent le récit direct du jeune Henri Grimal qui a participé enfant.
Oui.
Il raconte comment son instituteur, décrit comme très sévère, l'avait sélectionné avec deux de ses camarades pour réciter du Victor Hugo. Pendant ce temps, le pauvre maire lisait son discours officiel en tremblant de tout son long. Mais le détail le plus mémorable de cette journée, ça reste le bricolage visuel mis en place pour la cérémonie.
Oh, l'ingéniosité dont ils ont fait preuve pour pallier le manque de moyens est remarquable. Le monument en lui-même, bien que très beau, n'était pas d'une taille très imposante. Donc, pour lui donner la majesté requise, les organisateurs ont récupéré 4 fûts provenant d'anciens kiosques réformés.
Du recyclage avant l'heure.
Exactement. Ils les ont ensuite entièrement recouverts de lierre fraîchement coupée. Le contraste visuel entre le vert sombre de la verdure et la blancheur immaculée du stuc de la statue produisait un effet spectaculaire.
Le système D a fonctionné à plein régime. Les femmes du village ont même prêté leur propre drap de lit pour s'en servir de tenture décorative, quoi.
Des draps de lit, oui.
Et vient le moment de la décoration florale et patriotique. Le curé, grand maître de cérémonie, se rend soudain compte qu'il est à court de drapeaux tricolores français pour habiller la place.
Et la solution qu'il improvise frôle l'incident diplomatique, surtout dans le contexte très laïque des cérémonies de l'époque.
Ah oui, il décide d'aller fouiller en cachette dans les placards de la sacristie. N'ayant pas assez de bleu, blanc, rouge, il ressort les étendards du pape, qui portent les couleurs jaune et blanche, ainsi que les drapeaux de Jeanne d'Arc, qui sont bleu et blanc. Il intercale astucieusement ses pièces avec le peu de drapeaux nationaux dont il dispose. Dans l'agitation et de loin, l'illusion d'optique était parfaite.
Et la boucle est bouclée grâce aux archives visuelles, en fait. Il existe une carte postale, sans nom d'éditeur mentionné, sobrement intitulée « Monument des morts ». Et lorsqu'on analyse ce cliché, on retrouve au détail près la scène décrite par la plume de Grimal.
C'est vrai que l'image valide le texte avec une précision redoutable. On distingue nettement les épaisses guirlandes de verdure, le fouillis des drapeaux aux couleurs improbables flottant au vent et les nombreux pots de fleurs apportés et disposés avec soin par les villageoises. C'est quand même saisissant de voir comment une mémoire d'enfant, mise par écrit des décennies plus tard, est confirmée point par point par le déclencheur d'un appareil photo.
C'est émouvant. Et cet entrelacement entre la petite histoire locale et l'impact visuel des cartes postales s'étend aussi au-delà du bourg principal. L'article prend soin de nous emmener dans les hameaux qui gravitent autour d'Arvieux, chacun possédant sa propre petite mythologie cartophile.
Faisons un détour par le hameau de Cap-Longue, par exemple. Les archives mettent en lumière une carte postale éditée par un certain Durand qui tenait l'épicerie locale. La photo immortalise le facteur posant fièrement avec sa bicyclette. Mais cette carte a acquis une certaine notoriété pour une toute autre raison, une magnifique faute d'orthographe de l'éditeur. Le nom du village y est orthographié avec deux P, Cap-Longue.
Une simple erreur d'imprimerie qui transforme un objet banal en rareté pour collectionneurs. Et dans un registre un peu plus solennel, les environs comptent aussi le lieu de pèlerinage de Notre-Dame d'Aurès.
Ah oui.
C'était le point névralgique de la spiritualité locale.
Procession pour implorer la Vierge de protéger leur bétail et leur récolte. Le temps fort de l'année se déroulait le lundi de Pentecôte. Et là, on a une très belle édition du photographe Noyiga qui fige ses pèlerins posant avec gravité sous un arbre historique, le grand tilleul de la Révolution. On ressent vraiment le poids de cette tradition paysanne.
Si l'on relie cela à une perspective plus large, ce mode de vie agraire, rythmé par la marche à pied, la boue et les prières pour protéger les bêtes, il va subir un grand bouleversement. Une révolution technologique va redessiner la carte du territoire après la guerre.
Tu parles du gigantesque projet d'aménagement du Lévézou?
C'est ça.
À partir de 1947, les travaux de construction du barrage de Parloup débutent. Le nom même du lieu-dit en dit long sur la zone. Parloup signifierait « protège-toi du loup » en occitan. Les chiffres du chantier donnent le vertige. On construit un lac artificiel colossal de 1290 hectares.
L'impact est incalculable. Des fermes, des vallées sont englouties. L'eau recouvre même le pont de la Cléta, un pont impressionnant de 15 arches. L'économie locale est totalement transformée.
Et ce séisme se traduit de manière foudroyante dans les cartes postales. On passe du sépia aux cartes explicatives de l'édition 12e en 1957. On y voit les silos, le téléphérique de construction du barrage.
Puis on arrive aux éditions modernes Iris. L'industrie cède la place aux vues aériennes très touristiques, illustrant les campings et les plages apparues sur les rives de ce nouveau lac.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au bout du compte, ces simples morceaux de carton sont devenus les preuves irréfutables d'un monde disparu, documentant le passage d'une vie rurale, rude, entre boue et exode, à l'ère de la modernité et du tourisme.
Cela soulève une question importante.
Laquelle?
Si on réfléchit à notre époque actuelle face aux milliards de photos numériques prises chaque jour, souvent filtrées et parfaites, quelles seront les cartes postales que les historiens du 22e siècle analyseront pour comprendre notre vie quotidienne authentique?
C'est une excellente question. Nos disques durs conserveront-ils le charme d'une poule perdue sous une voiture ou le bricolage touchant d'une cérémonie de quartier? C'est sur cette réflexion que s'achève notre analyse approfondie. Un immense merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir partagé ce voyage dans le temps au cœur du Lévézou. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les sources.